Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 9 juin 1815, la signature des traités de Vienne. Après la signature du traité de Paris du 30 mai 1814, les vainqueurs de Napoléon Ier se retrouvent à Vienne pour régler le sort des territoires abandonnés par l'empereur. Avant même la venue des plénipotentiaires des puissances européennes, certaines décisions sont prises, comme l'union de la Belgique et de la Hollande en un royaume unique, ou le partage de l'Italie du Nord entre l'Autriche et le Piémont-Sardaigne. Mais la question de la Pologne et de la Saxe, anciennes alliées des Français, divise les négociateurs. L'envoyé de Louis XVIII, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre des Affaires étrangères qui a longtemps servi Napoléon, tire profit de ces rivalités. Il arrive à Vienne le 23 septembre 1814 et loge à l'hôtel Kaunitz. Par les traités conclus lors de l'automne 1813 jusqu'au printemps 1814, les souverains russes, prussiens et autrichiens s'accordent sur le partage de l'Europe, mais depuis, les ambitions se sont affirmées. Le tsar Alexandre Ier est bien résolu à réaliser le rêve qu'il caresse depuis 10 ans, la reconstitution sous son sceptre de tout le royaume de Pologne, en retenant l'ancienne portion prussienne occupée par ses troupes et en obtenant de l'Autriche le territoire autrefois reçu. Aussi pousse-t-il les Prussiens en Allemagne et les Autrichiens dans la péninsule italienne. La Prusse souhaite reprendre sa part polonaise et s'arrondir de toute la Saxe. L'Autriche entend remettre la main sur l'Italie sans pour autant céder la moindre parcelle de sa Pologne au tsar et en garantissant celle détenue par la Prusse. Pour la diplomatie autrichienne, une Russie portée jusqu'à l'Oder serait beaucoup trop puissante pour le maintien de l'équilibre européen. L'Angleterre conçoit les mêmes craintes. Elle paraît surtout préoccupée à brider à tout jamais la France. Constituer un royaume des Pays-Bas, formé par la réunion de la Belgique et de la Hollande, et établir sur le Rhin une forte puissance allemande lui suffit. Contrairement à l'Autriche, elle ne voit pas d'inconvénient à l'accroissement de la Prusse à condition qu'elle se dresse contre la France. Le conflit est donc réel entre les puissances victorieuses. Pour tenter de le régler, elle retarde l'ouverture du congrès de Vienne. La Russie et la Prusse s'accordent en secret. La Prusse cède sa part de Pologne au tsar, qui lui accorde la Saxe tout entière. L'Autriche et l'Angleterre refusent l'attribution de la Pologne aux Russes, mais s'opposent quant au sort de la Saxe. Talleyrand est redouté. Certains souhaitent l'écarter de la préparation du Congrès. Mais comment marginaliser une puissance telle que la France, même diminuée? Elle est donc admise aux rencontres préparatoires au même titre que l'Espagne. Les 4 deviennent ainsi les 6. Le 30 septembre 1814, ils se retrouvent pour la première fois. Le diable boiteux s'exprime en ces termes. « Je suis peut-être le seul prince qui ne demande rien. De grands égards, c'est tout ce que je veux pour la France. Je ne veux rien, je vous le répète, et je vous apporte immensément. la présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose tout l'ordre social. Le premier besoin de l'Europe est de bannir à jamais l'opinion qu'on peut acquérir des droits par la seule conquête et de faire revivre le principe sacré de la légitimité d'où découle l'ordre et la stabilité. Le 1er novembre 1814, le Congrès ouvre sa session officielle. Il se divise en trois comités pour les affaires italiennes, allemandes et helvétiques. Les questions relatives à l'Italie portent surtout sur Gênes, Parme et Naples. La France appuie la demande du roi de Sardaigne, beau-frère de Louis XVIII, qui souhaite recevoir la Ligurie en compensation de la Savoie perdue. Cette requête est agréée, Parme est assurée à Marie-Louise et après elle à son fils l'Aiglon. L'Autriche souhaite maintenir sur son trône napolitain Joachim Murat qui a trahi Napoléon. Talleyrand, jadis si intimement lié avec Caroline Bonaparte, réclame la déchéance de son époux considéré comme un usurpateur et la restitution de Naples aux Bourbons indignement dépouillés. « Il faut chasser Murat avant tout », écrit-il, « car il ne faut d'illégitimité dans aucun coin de l'Europe. » Il demande également que la souveraineté sur l'île d'Elbe soit retirée à l'empereur. Il suggère de l'envoyer aux Açores ou au-delà. Le tsar brouille les cartes. Le 8 novembre 1814, le prince Repnin Volkonski, qui occupe la Saxe, prie le roi Frédéric Guillaume d'y établir une administration prussienne. À Varsovie, le grand-duc Constantin annonce aux Polonais qu'ils sont désormais sous le sceptre des Romanov. Le 3 janvier 1815, au terme de longues négociations et la constitution d'une bien singulière alliance, un traité est signé par les représentants de la France, de l'Autriche et de l'Angleterre. Talleyrand en informe immédiatement Louis XVIII dans une lettre qui n'est qu'un long cri de triomphe. « Maintenant, sire, la coalition est dissoute et elle l'est pour toujours. Non seulement la France n'est plus isolée en Europe, mais votre majesté a déjà un système fédératif tel que 50 ans de négociations ne semblaient pas pouvoir parvenir à lui donner. Certains détails sont encore à préciser. L'Autriche et la France composent, Parme est cédée à Marie-Louise à condition qu'elle renonce aux droits que le traité de Fontainebleau confère à son fils. Elle accepte sans hésiter cette solution. À sa mort, Parme reviendra aux Bourbons. Reste encore la situation de Murat. Louis XVIII s'oppose au maintien même provisoire de cet aventurier. Il envisage de lui opposer une armée française. En consacrant la formation du royaume des Pays-Bas, en établissant la Prusse sur le Rhin, en doublant la superficie du royaume de Sardaigne, et plus généralement, en fortifiant de manière souvent démesurée certains États européens, les traités de Vienne, définitivement signés le 9 juin 1815, aggravent la situation que le traité de Paris fait à la France. Pourtant, en négociant avec beaucoup de finesse, Talleyrand sauve l'essentiel en réintégrant la France dans le concert des nations. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission passé-présent avant de retrouver la chronique littéraire, un jour trois livres, préparé par Emmanuel et que j'aurai plaisir à vous présenter. Nous écoutons Claude Nougaro, l'un de ses grands succès de l'année 1987, l'album de sa résurrection en quelque sorte, qu'il trouve outre-Atlantique. Nous écoutons Nouga York. L'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres, exceptionnellement quatre aujourd'hui, préparés par Emmanuel. Comme chaque semaine, nous commençons avec Mireille Calmel, qui publie aux éditions XO le premier tome de ses Noces de cendre. En Bretagne, nous sommes en juin 1505, lorsque le capitaine René de Kerboulard, maître des eaux et des forêts de Ruisse, demande la main de Sigilée. Tout en elle s'enflamme. L'homme est aussi séduisant que mystérieux. Il ne réclame pour dot qu'un lopin de terre marécageuse, oublié de tous. Un choix particulièrement étrange. En effet, dans ces terres noyées de brume, les loups rôdent, et jusque dans les murs de l'abbaye voisine, on murmure qu'un mal ancien s'éveille. tandis que Sigilée s'abandonne à l'homme qu'elle croit aimer, Kerboulard resserre peu à peu son emprise. Il est convaincu qu'elle est la clé d'une malédiction monstrueuse. Les Noces de Sand, c'est le tome 1, signé Mireille Calmel, c'est publié aux éditions XO. L'île sans nom de Gilbert Borde, aux éditions Presse de la Cité, dans la collection Terre de France, qu'Emmanuel affectionne tout particulièrement. Nous sommes en 1858, dans la région de Dieppe. Le jeune Hervé, employé de ferme, ne rêve que du grand large. Il se rend souvent au port, d'où de fiers trois mois partent pêcher la morue dans les eaux glacées et tempétueuses de l'Atlantique Nord. Un soir, déambulant le long du quai, il sauve un vieux marin de la noyade. Le rescapé lui confie un secret, l'existence d'une île mystérieuse qui recèlerait un trésor. La proposition d'embauche du capitaine du Matamor en partance pour Terre-Neuve va sceller le destin d'Hervé. Enfin l'aventure. À bord, les conditions de vie sont rudes, la pêche difficile, mais la solidarité un peu frustre des marins permet d'affronter tous les dangers. Jusqu'à ce jour de tempête où le jeune homme porté disparu va s'échouer sur une île. L'île sans nom de Gilbert Borde, c'est dans la collection Terre de France, aux presses de la Cité. La première reine d'Alessandra Selmi, aux éditions Albin Michel. En juin 1868, Nina, 15 ans, entre au service de Marguerite, princesse de Piémont. La toute jeune femme de chambre comprend aussitôt qu'elle n'est qu'un pion dans un univers d'intrigues. Née pour servir, elle se promet cependant d'être maîtresse de son destin. Déterminée à gagner son indépendance, un vieux majordome va l'y aider en lui apprenant à lire, ce qui changera à jamais son existence. Quelques mois auparavant, Marguerite a épousé à 16 ans le prince de Savoie, Humbert, fils du roi Victor Emmanuel II. Préparée à son rôle, elle refuse pourtant d'être réduite à la seule fonction qui lui soit dévolue, donner un héritier au trône. Par sa personnalité et sa volonté, elle gagne l'affection du peuple et devient une icône de son temps. La première reine d'Italie jusqu'à ce jour fatidique du 29 juillet 1900 où quelques instants suffiront à bouleverser sa vie, l'assassinat de son époux. La première reine d'Alessandra Selmi, c'est publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique par Les Silencieuses d'Anna McPaclin. C'est publié aux éditions Le Cherche Midi. Dans le comté de Kerry, en janvier 1980, l'assassinat d'un innocent fait vaciller l'Irlande tout entière. Par un matin glacé sur une plage battue par les vents du Kerry, on découvre le corps d'un nouveau-né abandonné au creux d'une dune. La première à arriver sur les lieux est Mary Shear, jeune garda de la police locale. Très vite, l'affaire prend une ampleur nationale. Une équipe d'enquêteurs de Dublin est dépêchée sur place, mais dans le Kerry, les secrets se taisent et les langues ne se délient pas facilement. Seule Mary, qui connaît mieux que quiconque les usages de sa ville, parvient à convaincre certaines femmes de témoigner. Impressionné, l'inspecteur Matt Foley, chargé de l'enquête la plus décisive de sa carrière, demande que Mary l'assiste. À mesure que l'investigation avance, les certitudes s'effritent. Dans cette petite ville où règnent les non-dits, où chaque foyer semble abriter une part d'ombre, et chaque habitant dissimulait une vérité, une question obsède Mary, qui a pu commettre l'impensable? Les Silencieuses d'Anna McPaclin s'est publiée aux éditions Le Cherche Midi. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui en a assuré la réalisation. Nous nous séparons en chanson avec Lynn Renault, Ma cabane au Canada, un titre de 1949 avec des paroles de Mireille Brassé et une musique de Loulou Gasté qui n'est autre que le mari de Lynn Renault. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures historiques.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler sous le toit de ma cabane au Canada. Elle attend engourdie sous la neige. Elle attend le retour du printemps. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît, la forêt. À quoi bon chercher ailleurs? Toujours l'élan de mon cœur reviendra vers ma cabane au Canada. Mais je rêve d'y emmener celui qui voudra me suivre. Viens avec moi si tu veux vivre au cher pays où je suis née. Ma cabane au Canada, j'y reviendrai avec toi. Nous rallumerons le feu tous les deux. Seul, un vieil indien entrera dans ma cabane au Canada. Je te dirai le nom des fleurs sauvages, je t'apprendrai le chant de la forêt. Ma cabane au Canada, tant que tu y resteras, ce sera le mon chéri. À quoi bon chercher ailleurs?